Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Cette émission est réalisée par Radio Campus Amiens. Elle est disponible sur le 87.7 FM, sur le DAB+ et sur radiocampusamiens.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Louis de Flash or True Colors. Il vient nous représenter son association ainsi que le festival Eau en couleur. Cet événement aura lieu du 13 au 18 mai 2024 dans différents lieux associatifs et culturel de la ville. Son objectif est de visibiliser des thématiques liées aux luttes pour les droits des personnes LGBTQIA+. Louis, bonjour, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va très bien et toi ?
Ça va super, on est très content de t'accueillir ici sur l'antenne de Radio Campus Amiens. Tu es un habitué de Radio Campus, tu es aussi bénévole chez nous, tu as une émission qui s'appelle Onde en couleur et tu es là aussi pour représenter l'association Flash or True Colors. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais me représenter l'asso, m'expliquer un peu ses missions pour ceux qui n'auraient jamais entendu ton émission ou qui ne connaîtraient pas Flash or True Colors ?
Bien sûr. Alors, Flash or True Colors, c'est une association LGBT de lutte contre les discriminations. Donc, on travaille sur trois grands axes globalement. La lutte contre l'isolement, donc l'organisation de moments de convivialité, d'échange avec des personnes LGBT ou même des personnes pas du tout LGBT qui ont envie de se renseigner, qui ont envie de se désisoler un peu socialement. Ça, c'est vraiment la base et le cœur de notre activité. Ensuite, on organise de l'accompagnement. Donc là, on va être sur l'accompagnement de personnes victimes, sur du dépôt de plainte, sur une première écoute, de l'accompagnement pour des personnes trans qui sont en transition, de l'accompagnement aussi pour des personnes qui demandent l'asile en France pour des violences LGBT-phobes qui ont été vécues dans leur pays d'origine. Voilà, on est sur quelque chose d'assez complet en termes d'accompagnement. Et à côté de ça, on a une activité de sensibilisation où on va aller sur des stands, des salons associatifs, des villages, ou alors en intervention scolaire, en université, en formation auprès d'autres associations ou d'institutions, où là, on est vraiment dans transmettre éventuellement ce qu'on peut savoir, faire évoluer un petit peu les mentalités. Et à côté de ces trois grands axes d'activité, on a une petite partie événementielle où notre association organise en mai un festival de lutte contre les discriminations depuis 12 ans. C'est la 12e année cette année. Donc là, c'est pour la journée du 17 mai, donc la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie. Et on organise la marche des fiertés d'Amiens.
Super. Avant justement d'attaquer sur cet événement, ce festival Eau en couleur qui aura lieu du 13 au 18 mai 2024, est-ce que tu pourrais me présenter un peu les événements que vous mettez en place justement tout au long de l'année ? C'est quoi une semaine type ou un mois type de Flash or True Colors finalement ?
Ah, c'est une super question. Alors nous, on fait beaucoup de choses en fin de mois. C'est marrant. Le dernier lundi du mois, traditionnellement, c'est l'apéro sans jugement, c'est un moment de convivialité, d'échange, où en fait, on parle pas du tout de bénévolat, on parle pas du tout de ce qu'on fait dans l'asso, on est vraiment là pour passer un moment convivial. En général, le dernier mardi du mois, donc le jour d'après, c'est la sortie de notre émission d'En couleur, juste après. Et après, on a d'autres moments, par exemple, souvent les vendredis vont être dédiés à l'accompagnement, de manière générale, parce qu'on tient une permanence au sein du point justice de l'espace de Wailly avec la ville d'Amiens. À côté de ça, très souvent, on va retrouver, en début de mois, souvent, un moment flash. Ça, c'est une réunion des bénévoles où le but, c'est que on fasse le point sur les projets en cours. Éventuellement, on propose des projets qui pourraient être menés, où on avance sur des éléments, sur des groupes de travaux. Ça dépend. Par exemple, l'actualité de ce mois-ci, forcément, c'est organisation du bénévolat sur le festival. Ça dépend du mois.
Et il y a aussi du coup ce très gros événement qui arrive à chaque fois aux alentours de la mi-mai, en l'occurrence cette année du 13 au 18 mai, c'est le festival Eau en couleur. Tu as commencé déjà un petit peu à nous en parler. Concrètement, est-ce que tu peux me le présenter un petit peu plus en détail ?
Bien sûr. Alors c'est un festival qu'on fait depuis 12 ans. Notre asso a été créée en 2011 et dès que l'association s'est créée en septembre 2011-2012, s'est lancé un festival qui s'appelait le Flash Festival à l'époque, qui s'est ensuite appelé le festival IDAO pour International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia. Et au fur et à mesure, c'est devenu le festival Eau en couleur parce qu'on a voulu lui donner une nouvelle identité l'an dernier d'ailleurs. C'est un festival qui cumule plein de partenaires qui sont tout autant des institutions, des partenaires du milieu culturel, donc des structures culturelles, tout autant des assos militantes. Voilà, on rassemble un petit peu tout le monde et le but c'est de dire, écoutez, pendant une semaine, on propose des événements ensemble sur la lutte contre les discriminations. Et le but, c'est de passer un temps ensemble. Alors, il y a des événements qui sont festifs, Par exemple, on fait une soirée bal des couleurs, une soirée de clôture du festival à Cité Carter, où on fait intervenir un super groupe qui s'appelle l'Arène Garçon. Et puis on est en train de voir aussi pour qu'il y ait un DJ set, c'est un défilé queer, un photobooth, enfin voilà, vraiment un aspect un peu plus festif. On a des ateliers qui sont beaucoup plus sur l'artistique. Par exemple, il y a Divergeurs qui propose un atelier sur les créatures dessinées, donc de drag poetry. Il y a aussi un atelier de théâtre de l'opprimé qui est animé par Paz à Passo, qui est une asso qui fait du théâtre de l'opprimé. Voilà, vraiment dans une dynamique de lutte contre les discriminations et des luttes contre les oppressions directement. Et à côté de ça, on a aussi des petites actions de sensibilisation. On fait un stand associatif avec le Crous au restaurant universitaire Saint-Leu. On le fait aussi à l'UPJV, au pôle cathédrale. Et on propose aussi, cette année, c'était l'envie, vu que c'est les JO quand même qui arrivent, on a pris contact avec la Fédération sportive LGBT parce qu'on voulait proposer aussi quelque chose sur le sport. Ça nous semblait important de mettre un petit peu en relief. On entend beaucoup de choses sur les JO, mais en vérité, il y a beaucoup de personnes aussi à qui les JO, ça peut nuire. Voilà, le but, c'était de le mettre un petit peu en abîme. On a un ciné-débat qui se passe au cinéma Orson Welles avec le FIFAM, le Festival International du Film d'Amiens, sur un film qui s'appelle Stories of Our Life. C'est un film qui vient du Kenya, qui parle de l'oppression des personnes LGBT au Kenya et de leurs conditions de vie. Et ensuite, on a un temps beaucoup plus militant, qui se déroule le vendredi 17 mai, donc la journée mondiale précisément, c'est toujours comme ça, qui est un rassemblement devant l'hôtel de ville avec des prises de parole de plusieurs associations, syndicats. Voilà, le but, c'est d'exprimer aussi les revendications que peuvent avoir les personnes et les associations.
On a une semaine, mine de rien, assez complète avec... avec une forme de, enfin, je veux dire, de, comment dire, du divertissement, avec de l'information, de la prévention aussi, c'est très complet. Concrètement, comment ça se passe en termes d'organisation, d'infopratique? Est-ce que tout est gratuit? Est-ce que tout est payant? Est-ce qu'il y a des choses gratuites, payantes? Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ça?
Bien sûr. Alors, le festival, il est, déjà, c'est important de le dire, il est ouvert à tout le monde, mineurs, majeurs, voilà, femmes, hommes, personnes non binaires, il est ouvert à tout le monde. Concrètement, et c'est sur tous les événements, concrètement, les ateliers sont sur inscription, notamment le lundi et le jeudi, parce que voilà, il y a une petite jauge de personnes maximum. C'est pas payant. La seule chose qui est payant, c'est ce qui se passe le ciné-débat au cinéma Orson Welles à la Maison de la Culture. Voilà. Sachant qu'on applique un tarif associatif, c'est moins cher que le cinéma Orson Welles d'habitude.
Ce qui est super chouette parce que ça veut dire qu'en fait on peut, sur la plupart de ce que vous organisez, se rendre juste et profiter des animations, des stands, de l'information, de la prévention. Tu m'as parlé aussi d'une conférence qui va travailler les thématiques du sport en lien avec les personnes LGBTQIA+. Concrètement, est-ce que tu pourrais me dire quelles sont les pistes de réflexion, quelques pistes de réflexion qui vont être travaillées lors de cette journée, qu'on puisse commencer un peu à comprendre, voilà, sur quoi vous travaillez finalement?
Alors la question sur le sport, déjà, c'est de pointer une réalité. Aujourd'hui, comment dire? Alors, je nous prends comme exemple, je sais que nous, à l'association, on n'est pas énormément sportifs, hein, de manière générale, mais les personnes LGBT sont des personnes normales et pratiquent le sport, comme beaucoup de personnes. Je prends par exemple l'association Cargo, qui est une association multisport à Lyon, qui réunit des milliers d'adhérents, littéralement, et qui est une association LGBT. Et justement, c'était tout l'objet de faire venir la Fédération sportive LGBT, qui fédère les associations LGBT sportives en France. C'était de faire un état des lieux sur les questions LGBT et l'inclusion des personnes LGBT dans le sport, parce qu'il y a des sports où être LGBT, c'est pas nécessairement ça se voit pas trop nécessairement. Par exemple, je prends le badminton, par exemple, si on va sur la piscine, ça devient déjà un sujet beaucoup plus compliqué, sur lequel nous d'ailleurs on aimerait mettre en place des événements, mais on se sent pas assez apte à aller sur ce sujet-là. Et l'idée, c'était aussi de faire témoigner des sportifs, notamment un sportif qui témoignera, alors je sais pas s'il sera présent ou en vidéo, mais voilà, l'idée, c'était de donner un témoignage aussi sur la discrimination qu'il peut y avoir dans le sport collectif. Alors là, nous, on avait pris le football pour exemple, mais ça pourrait très bien être le rugby, le basket, etc. Et c'était de donner un petit peu un angle sur ça. Je sais qu'il y a beaucoup de collectifs au niveau national qui œuvrent sur ces questions. Et enfin, il y a aussi une vraie question par rapport aux Jeux Olympiques et Paralympiques, quel impact sur la communauté LGBT? Il y a notamment un impact qui est très très fort sur les personnes travailleuses du sexe à Paris, parce qu'il y a un épurage dans les rues de Paris qui est clairement en train de se faire. Et voilà, ça met en précarité ces personnes-là directement. Donc voilà, le but, c'était d'aborder un petit peu tous ces sujets en, en expliquant simplement un peu le contexte et potentiellement en donnant aussi des statistiques nationales, parce que nous, on n'a pas nécessairement tous ces éléments-là.
Merci pour ces précisions. Il y a une dizaine d'événements en tout, on n'aura peut-être pas le temps de revenir sur tout, mais il y a peut-être aussi la soirée d'inauguration dont on peut parler concrètement. À quoi elle va ressembler, cette soirée d'inauguration qui aura lieu le lundi 13 mai?
Bien sûr, alors c'est à Côté Jardin, donc c'est le café de la Maison de la Culture. L'idée, c'est qu'on met un petit peu de musique. En général, on met une petite vidéo aussi, ils ont un grand écran. On discute ensemble, on boit des verres. À un moment, on présente le festival. Le but, c'est de présenter un peu la programmation, de présenter les partenaires. Il y en a pas mal aussi avec qui on a travaillé cette année.
Justement, est-ce que tu peux me les présenter un petit peu, ces partenaires?
Carrément. Alors, on a des partenaires, notamment plutôt institutionnels, avec la ville d'Amiens qui finance en partie le festival. On va avoir des partenaires qui vont beaucoup plus être sur le milieu étudiant, notamment avec le CROUS et l'UPJV. On a des partenaires qui sont très issus du milieu culturel, avec la Maison de la Culture, avec le Festival International du Film d'Amiens, avec Cité Carter, qui est un complexe musical à Amiens Nord. Et ensuite, on a des associations, donc Pas à Passo, qui est une asso de théâtre de l'opprimé, Divergeor, qui est une asso pour les personnes transgenres et non-binaires, et intersexes, et la Fédération Sportive LGBT, qui fédère les centres, et nous, Flash Entre Colors.
Prise de parole aussi, j'imagine, à ce moment-là? De quoi vous allez parler lors de la soirée d'inauguration?
C'est ça, le but, c'est de présenter le festival, de présenter aussi... Parfois, on aimerait faire plein de choses pendant le festival, mais en fait, on ne se rend pas compte qu'actuellement, déjà, le programme, il est hyper chargé, qu'en plus, nous, on est une association, on coordonne ce festival, mais qu'au-delà de ça, il y a d'autres associations aussi sur Amiens qui, pendant cette semaine, proposent d'autres choses aussi. Donc, c'est expliquer aussi qu'on a dû faire des choix. C'est peut-être donner des modalités de participation ou peut-être expliciter certains événements. Parce que c'est vrai que, par exemple, je prends un exemple tout bête, mais quand on voit ciné-débat, Stories of Our Life, c'est peut-être prendre le temps de présenter le film, savoir aussi qu'il y a un ciné-débat, savoir que nous, ensuite, on va présenter une exposition, par exemple. Enfin, voilà, l'idée, c'est de permettre aux gens de s'imaginer et de voir sur quoi ils se sentiraient le plus à l'aise.
Super. Tu nous as déjà pas mal parlé du soirée Bal des Couleurs, on va pas forcément revenir dessus et je précise que de toute façon toutes les infos seront disponibles sur le site de Radio Campus Amiens mais qu'on peut aussi aller sur vos réseaux sociaux j'imagine pour retrouver les infos. Moi je voulais te demander un petit peu à quoi va ressembler le rassemblement militant qui aura lieu le vendredi 17 par exemple.
Bien sûr, le rassemblement c'est un rassemblement alors que nous on organise depuis très longtemps, le but c'est que les personnes nous rejoignent. Nous, en général, on a des banderoles, on a des petits drapeaux, etc. Le but, c'est de visibiliser. Et ensuite, chaque association, alors c'est les associations du festival, mais il y a aussi des syndicats qui viennent. Vient qui veut, en fait, simplement. Et le but, c'est des prises de parole où on évoque des sujets. Et peut-être chacun, on peut mettre en abîme certains sujets. Je sais que, par exemple, les syndicats parlent nécessairement plus du travail. Je sais que Divergeor est beaucoup plus sur les questions de changement d'identité, par exemple. Nous, cette année, il y a pas mal de choses qui nous choquent, notamment la visibilité de la transphobie dans l'espace public et dans l'espace parlementaire aussi, mais aussi la loi immigration et les conséquences sur les personnes migrantes LGBT qui vont forcément arriver. C'est en partie ce qu'on évoquera, donc des prises de parole. Et puis après, après le rassemblement, c'est aussi un petit point d'étape pour se dire qu'on se met en groupe et puis qu'on va boire un verre, qu'on passe un moment militant ensemble. Voilà.
Merci. Concrètement, c'est quoi vos attentes? Quels sont vos objectifs sur cette édition par rapport à celle de l'année dernière?
Le festival, c'est toujours une période de l'année qui rapproche l'association des gens. Parfois, il y a des militants qui n'ont pas nécessairement trop le temps de venir, qu'on voit forcément sur le festival, ils viennent forcément à un événement. Donc ça fait pas mal de rapprochements. Et c'est toujours aussi un temps de recrutement. Il y a beaucoup de gens qui nous connaissent par le festival. C'est le cas l'an dernier, il y a beaucoup de gens qui ont appris à nous connaître dessus. Donc l'idée, c'est d'aller à la rencontre de publics qui ne nous connaissent pas nécessairement. Ça, c'est très cool, notamment via le CROUS. Ça, c'est vraiment un nouveau partenariat qu'on apprécie. Et l'idée, c'est aussi beaucoup de célébrer. C'est beaucoup d'organisation en amont, le festival, mais pendant le festival, on essaie beaucoup de profiter et de donner aussi de la visibilité à nos sujets, au travers, par exemple, d'articles de presse, de médias, d'interviews. L'idée, c'est... Alors, c'est que les LGBTphobies, c'est pas que le 17 mai, c'est pas que ce jour-là qu'on en parle. C'est un peu ce qu'on dit aux médias souvent, c'est bien gentil de nous inviter le 17 mai et le jour de la marche, mais c'est bien aussi de nous inviter toute l'année, parce que bah, c'est toute l'année les discriminations. Mais voilà, l'idée c'est de visibiliser ça, et c'est aussi de rapprocher des gens entre eux. Je sais que sur le festival, il y a des gens qui se rencontrent, il y a des gens qui lancent des projets aussi, parce que il n'y a pas que nous sur le festival, et je sais que par exemple, il y a d'autres associations qui œuvrent depuis longtemps sur ces questions-là, et qui se rencontrent, qui créent des partenariats, qui créent des gens, qui recrutent, voire même elles-mêmes des gens. Voilà, le but, c'est de rapprocher et de fêter et de militer.
Le mot d'ordre est passé. Concrètement, après cet événement, c'est quoi votre actualité? Sur quoi vous travaillez en ce moment? Est-ce que tu as un message à faire passer pour terminer cette interview?
Eh bien, l'actualité, l'actualité suivante, éventuellement pour les gens qui nous ont rencontrés pendant le festival, eh bien, ils pourront nous rejoindre à notre apéro mensuel le lundi 27 mai à 19h au Barrio à Amiens. Et éventuellement, l'actualité suivante, bah, évidemment, ce sera la Marche des Fiertés qui se déroule le 29 juin 2024 à Amiens avec un village associatif sur la place de la Maison de la Culture dès 11h et un départ de la marche vers 13h30.
Super, merci beaucoup. Et donc je rappelle que La Short aux Couleurs a aussi une émission sur notre antenne qui a lieu le mardi à 17h. C'est une mensuelle, si je ne dis pas de bêtises. Qu'il y a déjà une dizaine d'émissions, 13 ou 14 ouais. émissions disponibles sur le site de Radio Campus Amiens pour les personnes qui voudraient se sensibiliser à plein de sujets différents. Peut-être que tu peux revenir sur quelques sujets que vous avez abordés lors des différentes émissions.
Ouais, c'est vraiment une émission dans laquelle on aime bien évoquer plein de sujets, où on se sert aussi beaucoup des rencontres qu'on fait dans nos temps militants, que ce soit des partenaires ou des bénévoles, ou voilà, des gens qui ont quelque chose à partager. Je pense au dernier épisode, c'était sur la littérature jeunesse, sur les questions LGBT, grâce à la rencontre avec une libraire, où on a eu aussi une rencontre entre associations LGBT de Picardie, où le but c'était vraiment d'y aller en impro et d'avoir une sorte de débat ou d'une table ronde sur quels sont nos process en interne en tant qu'asso, comment le contexte local aussi il peut influer sur nos actions, sur notre pouvoir d'agir. Et puis après, on a aussi des sujets un peu plus témoignages aussi, où on a eu une personne trans qui est parent, et qui évoquait son récit. On a eu aussi l'inverse, un parent d'une personne trans qui évoque son récit, et notamment aussi un super épisode sur la question des migrants LGBT, avec trois personnes migrantes qu'on témoignait.
Une émission, c'est finalement qui résume bien tous vos champs d'action, tout ce que vous faites sur Amiens pour les personnes LGBTQIA+. Merci d'être venu représenter l'asso et le festival Haut en Couleur. Et à la prochaine sur l'antenne de Radio Campus Amiens.
À la prochaine.
C'est déjà la fin de cette interview. Louis de l'association Flash Entre Colors est venu nous présenter le festival Haut en Couleur. Cet événement aura lieu du 13 au 18 mai 2024 dans différents lieux associatifs et culturels de la ville. Son objectif est de visibiliser des thématiques liées aux luttes pour les droits des personnes LGBTQIA+. Je vous propose de continuer cette émission avec un sujet de Thomas Roland. Il souhaitait nous parler de la sortie du film Comme un lundi.
Eh oui, bonjour Rémi, et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un tour au Japon avec le premier film de Ryo Takebayashi, Comme un lundi. Kideoshin-desu. Boku-tachi, time-loop-shite-masu. Minna-tomari? Nakai-ne. Mon 1-shou-kan, kuri-kai-shite-masu. Sous-de-shou.
みんな止まり?かいね。見ててください。今から部長がくしゃみをします。ハッシュ。トニックに返してるね。わあ、みんな止まり?わあ、若いね。ハッピーデスデーとか、オールユーニードイズキルみたいな。あ、そうです。そこは恋はデジャブでしょ。おそらく、流した部長です。頑張りましょう!部長の腕についてる、石についてお話があります。
まずはさ、タイムループから抜け出して。あと一歩です。うわ、すごいな。さすが吉川さん。黙っててごめん。え?月曜。バカ月曜だよ。終わんねえ。最悪の一週間。あたりさん、停電します。え?3、2、1。ではデータ保存してた。
え?
Au Japon, le travail occupe une place importante dans la vie des employés qui vont jusqu'à sacrifier leur temps libre pour s'adonner pleinement à leur emploi. Comme un lundi fait partie de ces films qui questionnent le travail, sa place dans la société et ses effets sur l'individu. Yoshikawa est une jeune employée d'une agence de publicité. Elle doit gérer la campagne de promotion d'un client dont elle souhaite intégrer l'équipe. Seulement, Yoshikawa découvre qu'elle et ses collègues sont pris dans une boucle temporelle. Ensemble, les collègues vont essayer de découvrir pourquoi cette même semaine se répète et comment en sortir. Thème classique du cinéma fantastique, la boucle temporelle permet ici de mettre en évidence l'aliénation du travail au Japon avec les employés qui restent dormir au bureau les week-ends, qui travaillent tard le soir et effectuent les mêmes tâches répétitives de même que qu'ils adoptent les mêmes comportements. La caméra de Ryo Takebayashi ne sort d'ailleurs quasiment jamais de l'immeuble où travaillent les personnages, qui regardent la rue à travers les fenêtres du bureau. Les seuls extérieurs sont ceux qui se situent sur le toit du même immeuble. Les personnages sont bel et bien prisonniers du temps et de leur lieu de travail. Ce parti pris de mise en scène, allié à un montage cut dynamique et qui joue la carte de la répétition, crée alors un sentiment d'oppression. Pour autant, le réalisateur évite de répéter toujours les mêmes plans et arrive à diversifier les péripéties dans la volonté des personnages à trouver le nœud du problème. La sensation d'enfermement est transcendée par un traitement qui joue aussi la carte de la comédie, mais d'une comédie pas si légère. Par le biais de l'humour, Comme un lundi montre les sacrifices que demande le travail, de la présence assidue aux renonciations. Le réalisateur n'hésite pas à glisser quelques notes de dérision, comme ce patron qui passe son temps à lire des mangas, alors que ses employés se tuent à la tâche. Mais sous ce trait d'humour se cache un aspect beaucoup plus mélancolique, la clé pour sortir de la boucle temporelle. Ryo Takebayashi ne tombe pas dans le piège de l'humour facile, avec caricature à blague potage et méprisante. Il aime ses personnages et certains se révèlent même surprenants, le scénariste et réalisateur n'hésitant pas à démolir quelques clichés inhérents à la société japonaise. Aussi, en voulant absolument se sortir de cette boucle temporelle, les personnages veulent aussi être maîtres de leur destin. Ryo Takebayashi signe une œuvre sur le temps qui passe, les regrets et le renoncement à être qui on veut réellement être ou à faire ce qu'on veut réellement faire. Le travail, considéré comme une valeur sacrée, est ici décrit comme un abandon, un enfermement qui empêche l'individu de s'épanouir réellement. Comme un lundi dessine aussi le portrait d'une femme qui souhaite s'élever dans le travail et à travers elle, celui d'une société où il est difficile de s'imposer, de trouver sa place sans avoir à se renier. Comme un lundi, la comédie fantastique de Ryo Takebayashi sort le mercredi 8 mai dans les salles.
Vous écoutiez une chronique de Thomas Roland consacrée au film Comme un lundi. On termine cette émission avec le deuxième épisode de la série « L'électrostimulation est-elle du sport ?» réalisé par Colline Fauvet, étudiante du master journalisme de l'UPJV. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur l'antenne de Radio Campus Amiens.
J'ai mes bras qui bougent, voilà, c'est ça. Et j'ai la cuisse qui brûle.
Vous savez ce que je suis en train de faire en ce moment ? Une séance de musculation.
Vous aussi, vous voyez passer des images d'athlètes avec des drôles de fils branchés partout sur le corps.
Qui m'enfile une combinaison pleine d'électrodes. Et c'est parti pour une séance d'exercice de 20 minutes.
On a mouillé le maillot, se met au courant cette semaine en s'essayant à une discipline prisée, l'électrostimulation.
Vous avez testé l'électrostimulation musculaire. Ça sert à quoi votre truc ?
Bienvenue dans ce second épisode du podcast sur l'électromyostimulation. Hier, on a parlé du fonctionnement de l'EMS avec Marc Delporte, coach à domicile qu'il utilise depuis 7 ans dans ses séances sportives. On commence tout de suite avec une question sur les avantages de l'EMS. Nous verrons également dans un prochain épisode les nombreux stéréotypes liés à l'électrostimulation. Mais avant cela, quand et comment, selon quel profil, pouvons-nous utiliser cette technologie et est-ce que les résultats sont-ils faciles à obtenir ?
C'est comme tout, c'est comme tout appareil, c'est comme toute méthode. Il n'y a pas de remède miracle. Il faut, pour avoir des résultats au niveau du corps, pour avoir un changement de morphologie au niveau du corps, que ce soit de l'amincissement, de la tonification, de la musculation, ce que vous voulez, il faut de la régularité dans la pratique. Il faut mettre une certaine intensité. Il faut accompagner de nutrition. Il n'y a pas de remède miracle. Après, l'EMS a beaucoup d'avantages, c'est vrai. On peut citer les quelques avantages. J'en ai parlé déjà tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir faire des séances courtes et intenses. Le gros avantage aussi, c'est que ça travaille vraiment musculairement et sans... Alors, je mets des guillemets aussi sans effort, c'est-à-dire sans effort conscient. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de porter des charges lourdes ou vous faire mal physiquement pour avoir des effets. C'est l'électrostimulation, finalement, ça fait pas mal. C'est pas très agréable. On n'en a pas parlé, mais c'est pas très agréable. Mais ça fait pas mal, il n'y a pas de douleur. Du coup, ça nous permet quand même d'avoir une manière de stonifier, de se muscler sans effort très intense. Donc ça, c'est le principal avantage. Après, comme je disais tout à l'heure, on travaille tous les groupes musculaires en même temps. Donc, c'est beaucoup plus facile. Sur une séance de 20 minutes, une demi-heure, vous allez avoir les effets que vous auriez eus en salle de sport sur deux ou trois séances, finalement. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a des effets qui sont très, très intéressants.
Existe-t-il d'autres avantages à l'électrostimulation ?
Les principales marques vont vous vanter des effets sur le système cardiovasculaire. J'ai envie de dire forcément quand vous faites du sport, heureusement. Oui. Heureusement. Des effets sur le côté anti-cellulite avec des programmes spécifiques là-dessus. C'est pareil, s'il n'y a pas de remède miracle, il faut de la régularité, ça va dépendre aussi de la personne. C'est très individu dépendant la cellulite, il y a plusieurs types de cellulite, chaque personne a un métabolisme différent, donc ça ne fonctionne pas forcément sur tout le monde, ça ne fonctionne pas forcément en une ou deux séances, c'est très individu dépendant, donc là je mets des guillemets là-dessus sur le côté anti-cellulite. J'en suis pas extrêmement convaincu, moi qui travaille avec depuis pas mal de temps. Ça fonctionne sur certaines femmes qui nous disent voir une amélioration de l'aspect de la peau. Je préfère parler d'amélioration de l'aspect de la peau plutôt que de côté anticellulite. Mais voilà, ça c'est les vertus qui sont vantées par les différentes marques de MS. Effectivement, c'est très intéressant pour les gens qui, par exemple, ont des douleurs de dos. Parce que de la même manière, on va éviter de porter des charges. On n'a pas besoin de porter des charges lourdes pour avoir des effets sur la musculature, sur le gain de masse musculaire, sur la tonification. Donc, ça nous permet de travailler, par exemple, les muscles du dos, y compris chez des gens qui vont avoir des douleurs, on va dire, des lombalgies ou ce genre de choses. Ça, c'est intéressant.
Mais là, encore une fois, ça dépend aussi de l'individu.
Oui, de toute façon, c'est toujours individu dépendant, de toute façon.
Donc c'est pour ça qu'on n'a pas toujours une certification à 100% que ça fonctionne. Non, mais c'est très important en fait de le préciser, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment, que c'est très, enfin ça dépend en fait de la personne. On vante toujours que ça marche avec des corps très musclés, des corps très beaux, un peu luisants d'huile aussi. Bon, ça, c'est toujours dans les publicités, mais c'est vrai que c'est très important de le préciser que ça dépend en fait des personnes.
Oui, on a tous un métabolisme différent et on réagit tous de manière très différente à l'activité physique en général. Y a des gens qui vont vouloir mincir, ils vont aller courir trois fois, ils vont déjà avoir perdu un kilo ou deux, et d'autres personnes qui vont arrêter de manger pendant trois jours, faire du sport trois fois par jour et qui finalement vont rien perdre. Ça, c'est une question de métabolisme, on est tous différents et forcément, ça n'a pas les mêmes effets sur tout le monde. Voilà.
C'est déjà la fin de ce second épisode. On se retrouve très vite pour parler du rapport entre nutrition et électrostimulation, toujours avec notre invité Marc Delporte, coach sportif.